frère Benoît Dubigeon, bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Radio Maria.
Oui, bonjour. Bonjour Olivier et bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous pour ce livre que vous avez publié aux éditions Artege. C'est ton visage que je cherche, frère Benoît Dubigeon. Voulez-vous bien vous présenter à nos auditeurs ?
Alors, je suis un frère franciscain, du moins j'essaye de l'être, donc un bon disciple de Saint François. Je suis ingénieur travaux publics de formation, d'origine. J'ai pas mal travaillé dans ma vie. Et puis, un parcours en Afrique, comme coopérant, m'a fait bifurquer un peu dans ma vie. Et j'ai décidé de devenir franciscain à la suite de Saint François d'Assise pour vivre une vie simple, rayonnante, joyeuse, à la suite du Christ. Et donc, après ma formation, j'ai travaillé dans la cité des Bosquets à Clichy-Montfermeil. Et puis là, ça a été passionnant, mais en même temps très difficile. Puis je suis devenu enseignant en lycée professionnel et technologique, enseignant en maths et à la fois comme aumônier, et puis pendant 17 ans. Et à la fin de ces 17 années, les frères m'ont élu provincial des franciscains, 5 ans, provincial de toute la province ouest, les deux tiers ouest de la France. Et ensuite, je suis devenu aumônier dans un centre spirituel de la région parisienne. Et en même temps, j'ai été appelé à être aumônier de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le ministère que j'exerce depuis 10 ans. Et depuis un an, je suis prêtre en Essonne, et prêtre à la fois à l'intérieur de la prison, mais aussi à l'extérieur de la prison, où je rencontre du personnel qui chemine aussi vers les sacrements, vers la vie chrétienne. Voilà, et puis je suis membre du conseil presbytéral de l'évêque de l'Essonne. Voilà, en gros, c'est le résumé.
Un résumé dont nous avons entendu que vous êtes l'aumônier de la plus grande prison d'Europe. Fleury-Mérogis, c'est ce qui va nous intéresser dans votre livre, c'est ton visage que je cherche. Vous êtes à la suite de Saint François d'Assise qui aimait voir luire et rayonner le visage du Dieu d'amour, du Dieu très humain. Mais tout d'abord, c'est les psaumes que vous avez eus dans la bouche et qui sont rentrés dans votre cœur. Vous appelez Benoît et c'est sous l'habit, n'est-ce pas, des frères de Saint-Benoît chez les bénédictins que vous avez reçu le goût de la parole.
Alors, j'étais en Afrique et je travaillais dans les villages à construire des puits, des cases d'alphabétisation. Et puis, en plein milieu de mon séjour, c'était dans les années 1979, j'ai fait une hépatite virale qui m'a cloué sur un lit d'hôpital pendant quelques semaines. Et j'ai été faire ma convalescence dans l'abbaye des bénédictins de Zobégan sur les plateaux frais la nuit du Togo. Et là, j'ai récupéré très vite ma santé et j'ai vécu comme un moine. C'est-à-dire, je travaillais avec les frères à trouver des sources d'eau, à réparer des pompes. Je dormais et surtout, je priais. Et je priais les psaumes et ça a été une expérience fondamentale dans ma vie de pouvoir, avec la Cora, méditer les joies de l'homme, de notre famille humaine et aussi ses souffrances et ses douleurs et ses cris. Et ça a été pour moi l'expérience fondatrice de ma relation avec le Seigneur, parce que je crois que notre foi chrétienne n'est pas une religion, mais elle est l'expérience de la rencontre personnelle du Christ que l'on fait avec ses hauts et ses bas. Et les psaumes ont joué un très grand rôle à ce moment-là et m'ont mis en route vers le don de moi-même pour Dieu, pour les autres plutôt, à cause de Dieu. Et c'est vrai que quand je vois après 30 ans de décalage, les psaumes dans la prison ont une résonance étonnante parce qu'ils ont permis le relèvement d'un certain nombre de frères détenus que j'ai accompagnés en lisant les psaumes, en les méditant, en se les appropriant dans les histoires douloureuses et cabossées de mes frères détenus. Et donc les psaumes, oui, c'est vraiment une expérience fondatrice d'une relation en quête de Dieu et en quête de notre propre humanité, de notre propre visage, oui.
Ces psaumes, vous le disiez, il y a tant de fois la clameur, tant de fois le cri, tant de fois la détresse et le secours divin. Pour finir avec ce passage marquant chez les disciples de Saint Benoît, il y a la liturgie. La joie et le visage de Dieu se cherchent, le visage sans visage se cherche dans la sainte liturgie, dans le culte divin chez les bénédictins. Et c'est la liturgie aussi qui donne le tissu qui donne le rythme dans votre livre, C'est ton visage que je cherche. C'est surprenant, mais vous l'avez enchâssé, toutes ces perles précieuses, tous ces éclats de vie où vous avez vu le Seigneur Jésus, vous l'avez enchâssé dans la prière liturgique, dans l'office divin. Pour quelle raison ?
Parce que je suis moi-même, comme frère franciscain, très marqué par la liturgie, qui est le travail de la prière dans ma vie et dans la vie des autres. Et je m'aperçois que quand on soigne la liturgie, qui donne j'allais dire, la source de la vie à vivre au quotidien après avoir quitté l'office, on va à son travail, on va rejoindre nos frères et nos sœurs, les hommes, et cette liturgie va donner forme, la forme de Dieu à notre vie et à la vie des hommes. Et donc c'est pour ça que dans mon livre, j'ai pris les grands temps de la vie liturgique, en commençant par l'Avent, puis Noël, le Carême, le Jeudi Saint, le Vendredi Saint, où l'on meurt à cause de Dieu, le Samedi Saint et la Vigile Pascale, où l'on ressuscite toutes les forces vives que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour vivre après tout le temps de Dieu, qui est le temps où on apprend à devenir un saint. Et donc, c'est ce schéma de la vie liturgique qui donne forme à notre vie concrète, humaine, qui est le fil conducteur de mon livre. Et j'ai essayé d'illustrer de manière très concrète dans ma vie quotidienne, dans des expériences marquantes de ma vie d'ado, d'homme au travail, de frère franciscain, et en particulier dans ma vie d'aumônier. J'ai pas mal de récits de ma vie d'aumônier de prison qui illustrent ce travail de la prière, cette liturgie qui donne forme et goût et espérance à notre vie d'homme et de femme, et notre vie chrétienne, oui.
Frère Benoît, Dubigeon, vous nous avez donné le fil d'or. Si vous voulez bien, nous allons suivre ce fil d'or liturgique pour notre émission. Nous allons creuser avec vous le chant du cœur pour, avec vous, si vous le voulez bien, donner à nos auditeurs, à chaque temps liturgique, les perles précieuses, les théophanies, les endroits où vous avez pu rencontrer de façon mystique et mystérieuse le Seigneur Jésus dans le quotidien de votre vie. Commençons, si vous le voulez bien, par le temps de l'Avent. Que pouvez-vous nous dire de plus, ayant nos auditeurs, je le rappelle, qui sont souvent dans des situations aussi de réclusion, de maladie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce temps de l'Avent, de plus marquant ?
Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'accueil et de l'attente. C'est creuser en soi un espace de liberté où un autre va venir augmenter cette liberté. C'est le temps où je vais pouvoir accueillir le meilleur de moi-même. Nous sommes aujourd'hui le jour de la fête de la Visitation, qui est pour moi, qui devrait être la fête de tous les aumôniers de prison, parce que justement Marie et Élisabeth ont creusé en elles, comme dans le temps de l'Avent, cet espace où elles ont su accueillir le meilleur d'elles-mêmes. Élisabeth, c'est Jean-Baptiste, pour Marie, c'est Jésus, et c'est la rencontre de deux personnes qui sont porteuses du meilleur d'elles-mêmes, qui vont faire en sorte que ce meilleur va tressaillir au-dedans d'elles, et ça va provoquer des rencontres extraordinaires. Donc le temps de l'Avent, c'est le temps de la jubilation parce que l'on est accordé au meilleur de soi que l'on porte. Bien sûr, c'est Dieu, mais ceux qui n'ont pas encore reconnu Dieu, ça peut être telle ou telle valeur, ou telle qualité, ou tel espace d'attente, d'espérance qu'ils attendent dans leur vie. Voilà, c'est ça le temps de l'Avent. C'est vivre cette gratuité de Dieu qui vient en nous pour creuser en nous un espace de liberté.
Et quant au temps de Noël, frère Benoît Dubigeon, qu'est-ce qui ressort de ces rencontres, en particulier dans les prisons, de ce mystère de l'abaissement, on dit de la kénose, du Verbe divin ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ?
Je vais vous dire ce pourquoi je suis devenu aumônier de prison, et c'est lié au temps de Noël. J'ai été juste ordonné prêtre, j'avais 33 ans, et le frère de ma communauté qui était aumônier à la maison d'arrêt de Villepinte m'a invité à venir concélébrer avec lui dans cette maison d'arrêt. C'était la première fois que je mettais les pieds dans une prison. Et là, la lecture de l'évangile, quand Dieu se fait petit bébé, incapable de parler, lui qui est parole de Dieu, incapable, j'allais dire, dépendant de tous, en particulier de ses parents, alors qu'il est le prince de la vie, eh bien, un homme détenu qui était là pour avoir tué s'est mis à pleurer de tout son corps et de tout son cœur. Et je me suis dit, pour que le Dieu, notre Dieu chrétien qui vient se faire petit bébé à Noël, qui vient se faire si proche de tous, puisse faire craquer même un criminel, je me suis dit, là, la prison, c'est une bonne nouvelle pour que l'on puisse, alors qu'on est démuni de tout, qu'on a tout perdu, on peut à ce moment-là accueillir l'essentiel de notre existence, Dieu, le meilleur de nous-mêmes et le visage fraternel de ses frères. Noël, c'est ça, c'est être capable de, quand on a tout perdu au plus bas de notre humanité, accueillir le prince de la vie qui se fait tout proche de nous et accessible, accessible surtout. C'est ça le mystère de notre foi incarnée.
Incarnée dans l'abaissement de la Sainte Eucharistie aussi. Pensez-vous, frère Denois Dubigeon, que pour le salut du monde, et il n'y a rien de plus haut que la Sainte Eucharistie et la célébration de la messe?
La Sainte Eucharistie, c'est la source et le sommet de tout. Nous trouvons dans l'Eucharistie le don suprême de Dieu qui s'est fait dans son Fils Jésus, qui s'est abaissé depuis la crèche jusqu'à la croix. Saint François d'Assise aimait beaucoup méditer ce mystère de l'abaissement du Christ de la crèche à la croix, en passant par sa vie de prédication et sa vie humble. Et c'est ça, parce qu'il a donné sa vie, parce que les hommes l'ont refusé et l'ont anéanti, Dieu l'a ressuscité. Et là, il a été exalté dans la gloire du Père. Et l'Eucharistie, ce mouvement de l'Eucharistie, d'abaissement, d'incarnation et d'exaltation vers la gloire de Dieu, c'est le mystère de toute une vie qu'il faut nous déployer au cœur de nos vies quotidiennes, nous abaisser en aimant, aimer jusqu'à s'abaisser pour justement donner notre vie pour les autres, car comme le dit saint François, c'est en se donnant que l'on reçoit. C'est en s'abaissant que l'on se fait proche, et c'est en se faisant proche qu'on permet d'élever, de relever les plus abaissés de notre humanité. C'est le mystère de l'Eucharistie, oui, tout à fait.
Cette Eucharistie, nous croyons savoir, frère Benoît Dubigeon, peut-être vous nous détromperez, que François d'Assise s'appelle François, car les Français étaient connus dans le temps pour avoir une grande dévotion à la Sainte Eucharistie.
Oui, c'est exact. Alors, il s'appelle François parce que sa mère était provençale et qu'en fait, il a été baptisé sous le nom de Jean et qu'on l'a surnommé le petit Français, le petit Franchouet. Et c'est de là que vient effectivement ce nom de François. Mais François avait un amour très respectueux des saints prêtres, même s'ils avaient une vie qui n'était pas forcément accordée à une vie de sainteté, mais ils portaient dans leurs mains pauvres le trésor de notre vie qu'est l'Eucharistie, le corps du Christ donné, livré par amour pour nous, pour qu'à notre tour nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour les autres. Ça, saint François avait un amour pour l'Eucharistie tout à fait étonnant et tout à fait magnifique, et nous le retrouvons bien entendu de la crèche à Noël jusqu'à la croix, le vendredi saint, et Dieu l'a exalté dans la vigile pascale, oui.
Frère Benoît Dubigeon, nous avançons dans le temps liturgique de carême. En temps de carême, ce temps d'épreuve, ce temps de privation, mais aussi de fiançailles, et ce temps heureux, que pouvez-vous nous dire de ces perles qu'il y a dans le champ de votre cœur?
Le carême, c'est l'apprentissage à aimer comme Dieu nous aime. Alors, je commence par ce récit des tentations et de méditer combien le Christ est capable de résister aux tentations, parce que juste précédemment, lorsqu'il est baptisé, il est plongé dans l'eau de la mort pour ressusciter, et une voix du ciel lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma confiance ». Et c'est parce qu'il se sait un Fils bien-aimé qu'il va pouvoir résister aux tentations les plus dures qu'elles soient, celles du prince des mensonges. Et je développe après dans mon livre toute cette pédagogie qu'il nous faut apprendre à avoir pour résister à toutes nos tentations, pour résister aux frères loups, hein, je suis pas franciscain pour rien, qui habitent en nous, qui sommeillent en nous, qui parfois rudoient au fond de nos cœurs pour ne pas lui laisser toute la place, pour ne lui laisser que sa propre place et faire en sorte que ce soit le Christ qui occupe la meilleure part de lui-même pour être capable de vivre le pardon. Parce que nous savons bien que le champ des relations humaines est un champ de lutte, est un champ impitoyable parfois, et que le démon, il se retrouve dans nos relations avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, avec notre propre vie spirituelle et humaine et corporelle et affective. Et donc, devant ces tentations, nous avons à apprendre à laisser l'esprit du Christ, parce que je sais que je suis un fils bien-aimé, moi aussi, l'esprit du Christ qui vient me remettre debout alors que j'ai toutes les raisons de tomber et d'être incapable de pardonner aux autres, de me laisser pardonner aussi de mes mérites ou de mes fautes ou de mon péché. Et donc, c'est tout ce mystère de la relation avec ce Dieu qui croit en moi, qui me dit, tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi, et que là où le péché a pu se multiplier, la grâce de Dieu a surabondé. Ça, je le lis dans l'Épître aux Romains au chapitre 5. Et donc, je développe un peu cette invitation à devenir chaste, c'est-à-dire à devenir ajusté dans ma relation avec les autres, avec moi-même et avec Dieu, avoir la juste distance. Et ça, Olivier, si vous saviez combien je l'apprends en prison, apprendre à avoir la juste distance avec les autres, c'est ça, être chaste. C'est ça, apprendre à être libre pour justement transmettre cette magnifique miséricorde du Seigneur qui nous est donnée. Et vous savez, la miséricorde, c'est les entrailles. C'est les entrailles. Dieu nous aime comme un père, comme une mère, et il veut que nous passions par la matrice de sa vie divine, de sa vie grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous venons de fêter la Pentecôte, et donc le carême, c'est ce passage par la matrice divine de Dieu qui vient nous pardonner, nous donner ce que nous ne pouvons nous donner à nous-mêmes pour à notre tour être capable de le transmettre à d'autres.
Un chapitre dans votre livre, frère Benoît Dubigeon, sur le jeudi saint. Le temps liturgique, notre Saint-Père, le pape François, a lavé le pied des prisonniers. Qu'est-ce que dit ce mystère en prison, le mystère du jeudi saint?
Vous savez, quand je suis dans une cellule de prison, j'y vais deux ou trois fois par semaine, et que je m'assois à côté de mon frère détenu, et que je suis là pour le servir, servir toute la vie cabossée qu'il a, l'écouter avec mes oreilles d'éléphant, lui dire, tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi, c'est ton visage que je cherche, ce n'est pas, je ne veux pas savoir ce que tu as commis, parce que je sais que si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Et je me mets à ton service. Je vais peut-être pas lui laver les pieds, mais je suis là pour lui donner, lui transmettre le cœur de Dieu qu'il aime. C'est le Christ est déjà là dans la prison. Ce n'est pas moi qui amène le Christ dans la prison. Il est déjà là. J'étais en prison, vous m'avez visité. Mais Saint Paul le dit bien, souvenez-vous de ceux qui sont en prison parce que ils pleurent. Ils pleurent de leurs péchés. Et le plus dur pour eux, c'est de se pardonner eux-mêmes ce qu'ils ont commis. Mais les larmes de la miséricorde sont des larmes qui relèvent et qui révèlent aussi leur vraie face lumineuse. Et quand je suis à côté d'eux, parfois la tête penchée pour pas me mettre en supériorité, mais en infériorité par rapport à eux, je leur dis par mon corps que ils peuvent se relever grâce à cette miséricorde du Seigneur et que j'ai la joie de me donner à eux comme le Christ s'est donné à eux. C'est pas pour rien qu'on m'a appelé à devenir aumônier de prison un jeudi saint. C'est un jeudi saint qu'on est venu me trouver en 2013 pour pouvoir servir mes frères détenus et les aimer le plus qu'il m'est possible pour qu'ils puissent se relever, eux aussi, comme moi un jour j'ai pu me relever. Recevoir pour donner et donner pour recevoir la bonté de Dieu pour moi et pour les autres, voyez.
Frère Benoît Dubigeon, une tertiaire du tiers-ordre de Saint François, une franciscaine, Sainte Angèle de Foligno, avait dans l'intimité avec notre Seigneur dit ces paroles-là. Quand je parle d'amour en parlant de Dieu, j'ai l'impression de prononcer des blasphèmes, à tel point l'amour qui est en Dieu déborde toute parole et déborde toute conception. On avance dans le temps de la passion. Qu'est-ce que c'est cette passion pour vous, frère Benoît Dubigeon ?
La passion, c'est d'abord être passionné pour Dieu, avoir une vie passionnée pour Dieu et du coup une vie passionnée pour les hommes. Pour les hommes et les femmes, et en particulier pour les plus petits, pour ceux qui ne comptent pour personne. Vous savez, quand je célèbre la messe, quand je préside la messe, et je dois nettoyer après la communion le calice et la patène, je vais toutes les poussières du corps du Christ qui sont encore sur la patène et que je vais mettre dans le calice, eh bien, je prie pour tous ceux qui sont des poussières dans la vie, qui ne comptent pour personne. Pour personne. Et Dieu en a fait son corps vivant. Et c'est pour eux que cette Eucharistie aussi est donnée. Et c'est pour eux que le Christ a livré sa vie, a donné sa vie, hein, quitte à la perdre. Et il l'a perdue, humainement parlant. Mais Dieu, son Père, l'a ressuscité parce que c'est en donnant sa vie et en livrant sa vie, c'est si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, le grain de blé ne ressuscitera pas, mais s'il tombe en terre, il vivra et il donnera du fruit, 100 pour 1, 1000 pour 1, pour que d'autres hommes et des femmes, ceux qui sont considérés comme des poussières, des moins que rien, puissent à son tour se lever. Donc la passion, c'est donner sa vie, quoi qu'il en coûte, même si je sais qu'en faisant du bien, et j'en ai fait l'expérience ces dernières années, en faisant beaucoup de bien, plus j'en fais, plus je suis persécuté. Mais je suis persécuté à cause de l'Évangile et à cause du royaume. Et tout cela, ce sont des semences de vie et de résurrection, pour moi d'accord, bien sûr, mais surtout pour les autres, pour les autres. C'est pour les autres que le Christ est mort et ressuscité. Et c'est pour le Christ que moi aussi, j'expérimente ce passage de la mort à la vie. C'est ça le Vendredi Saint, c'est ça la passion. Passionné pour Dieu et pour les hommes, quitte à en perdre la vie, à s'anéantir dans la kénose, mais pour le bien de l'humanité, pour que ce bien se lève, comme le levain va faire lever toute la pâte vers Dieu.
Frère Benoît Dubigeon, nous vous recevons pour votre livre, c'est « Ton visage que je cherche », publié aux éditions Artege. Ce livre, au fil de l'année liturgique que nous suivons avec vous, il y a plusieurs événements, les événements de votre histoire personnelle, familiale, vos rencontres avec les personnes fragiles, cabossées, fêlées, tous les accompagnements des personnes détenues à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, vos propres fragilités aussi, et la Sainte Écriture aussi, encore et toujours. Nous avançons, nous suivons le fil d'or de la joie de Dieu, de la Sainte Liturgie. Nous sommes au Samedi Saint et à Pâques. Que pouvez-vous nous dire ? Avez-vous vu ces relèvements ? Dans la joie, dans l'allégresse, comme nous l'avons chanté aujourd'hui, la fête de la Visitation, le Seigneur danse en toi, le Seigneur se réjouit en toi. Est-ce qu'ils ont pu retrouver cette image et cette ressemblance qu'ils ont intrinsèquement en eux-mêmes, tous ces détenus, tous ces pauvres, tous ces blessés ?
Alors, je vais vous dire en peu de mots, peut-être un des événements qui m'a le plus marqué, j'arrivais dans une cellule de quelqu'un qui m'avait appelé à le rencontrer. Je ne l'avais jamais encore vu, et j'arrive à la porte de sa cellule, ayant la clé de la cellule, puisque je circule librement, et j'entends tambouriner très fort, taper très fort. J'hésite à rentrer, je finis par rentrer, et là, je vois ce frère détenu qui se tapait la tête contre les murs, qui était complètement sanguinolent et qui voulait en finir avec la vie. Et je me mets à l'écouter. Qu'est-ce qui vous fait souffrir pour en finir avec l'existence ? Et pendant 40 minutes, il me raconte son histoire de galère et de souffrance. Je ne dis pas un mot. Et à ce moment-là, je lui dis, vous me faites penser au psaume 87, qui est le psaume le plus dur qui soit dans la Bible. Et il le lit. Et un temps de silence, je ne dis rien. Et il me dit, en me montrant le psaume, ça c'est moi. Il avait réussi à s'identifier à ce psaume de souffrance où il était à deux doigts de mourir. Et je lui dis, écoutez, La seule parole que je lui dis, c'est « Vous pouvez continuer à vous taper la tête contre ce mur. Ce mur ne vous répondra jamais. Tapez-vous la tête contre Dieu, contre votre histoire de blessure, contre tous ceux qui vous ont fait souffrir depuis votre naissance, vos parents qui vous ont abandonné, ces foyers d'accueil, cette drogue dans laquelle vous n'en pouviez plus. Eux, votre Dieu vers lequel vous vous tournerez, vous répondra. Peut-être par ma visite, moi, aumônier, ou peut-être par un co-détenu qui vous donnera un coup de main ou une cigarette, il vous répondra. Et je m'engage à venir vous visiter toutes les semaines. Et je vous assure que pendant 6 mois, je l'ai visité toutes les semaines. Et petit à petit, j'ai vu quelqu'un qui s'est relevé, au point même qu'un jour, je ne l'ai pas reconnu. Je lui dis « Excusez-moi, j'ai dû me tromper de cellule. » « Non, non, c'est bien moi, frère Benoît. » Je ne l'avais pas reconnu tellement il avait été restauré dans son vrai visage d'homme, relevé, transfiguré, ressuscité, j'allais dire ressuscité. Vous voyez, quand on attend peu, on reçoit peu. Alors que quand on attend beaucoup, comme une terre assoiffée, on reçoit beaucoup. Et c'est le cas de nombre de personnes détenues qui ont tout perdu jusqu'à leur dignité, leur travail, leur compagne, leurs enfants, qui du coup attendent tout et peuvent restaurer en eux le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur dignité d'homme et surtout leur dignité de fils de Dieu. Car cela, cette dignité-là, rien, ni personne, ni aucun événement ne peut la détruire parce qu'elle est inscrite au fond de nous et elle est inaliénable. Voilà, on disait dans la séquence de la Pentecôte, rien avec l'Esprit Saint, rien dont aucun homme n'est perverti définitivement. Car cette face lumineuse que nous avons en nous peut être tous les jours ressuscitée, ressuscitée dans ce mystère de Pâques où l'on meurt pour ressusciter grâce bien sûr à des médiations que sont la prière des frères, la parole de Dieu et Dieu lui-même.
Frère Benoît Dubigeon, nous vous confions aussi à cette prière qui nous obtient la charité et qui l'augmente, aussi l'œuvre que nous faisons à Radio Maria, c'est-à-dire de prier le chapelet avec les détenus, d'offrir des radios aux prisonniers pour qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Et frère Benoît Dubigeon, nous arrivons au terme de notre émission. C'est ton visage que je cherche, publié aux éditions Artege. Un grand merci d'être venu sur nos ondes.
Je vous remercie beaucoup et merci aux auditeurs pour leur écoute. Et que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix.
Amen. Chers auditeurs, c'était Interview Témoignage. Nous étions avec frère Benoît Dubigeon pour son livre « C'est ton visage que je cherche » publié aux éditions Artege. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.